le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Retour, bonjour à tous, de retour sur ce congrès USH, le congrès HLM depuis les allées du parc des expositions de Bordeaux. Ça fait du bien voilà, de revoir tout le monde, des sourires sous les masques, on le voit parce que c'est au niveau des yeux que ça se lit, c'est important. Je suis en compagnie de Marie Spratt sur le plateau Radio Imo, Radio Territoria, toujours en direct hein, depuis ce congrès de l'USH. Vous êtes la présidente justement de l'USH. Marie, bonjour.
Oui, bonjour. Pas tout à fait de l'USH, hein, puisque donc c'est bien Emmanuel Cos. Je suis présidente de la commission sociale.
De la commission sociale.
Voilà, des politiques sociales de l'USH.
En quelques mots, peut-être votre avis, votre ressenti un petit peu sur ce salon qui a démarré ce matin.
Bien, je dois dire que sur une première journée, et surtout après les propos que j'ai entendus ce matin, je suis rassurée. Rassurée de voir que la confiance est là, que notre Premier ministre s'est exprimé avec des propos très élogieux à l'encontre des bailleurs sociaux, et que surtout, la place et la mission des bailleurs et tout ce qui a été mené pendant la crise sanitaire donc a été valorisé au niveau. Qu'il en est, à savoir que nos équipes se sont fortement mobilisées hein, auprès de nos locataires, mais pas que. Et donc derrière, ça a été reconnu la valeur ajoutée, la création de valeur sociale des bailleurs sociaux sur les territoires comme un acteur majeur hein, de ces territoires, donc a été salué. Et je crois que ça, c'est tout à fait intéressant et important pour nos équipes et pour l'avenir.
Donc le Premier ministre, on le rappelle, Jean Castex était dans les allées du salon ce matin pour l'ouverture de ce congrès. Justement, ça fait du bien ouais, d'être soutenu. Il y avait des motifs d'inquiétude avant son discours ce matin.
Des motifs d'inquiétude parce que ça fait quelque temps quand même que nous pouvons être malmenés, que ce soit dans les mesures diverses et variées. On l'a vu hein, derrière la mise en place malgré tout de la RLS et les derniers sursauts autour de la surcompensation peuvent rapidement penser que donc nous sommes des dodus dormants, qu'on ne fait rien, que nous avons des moyens, que nous ne mettons aucun, disons, principe en exécution et surtout aucune mesure pratique auprès de nos locataires. Et là, enfin, c'est reconnu puisque la mobilisation, je le rappelle, des bailleurs est forte, quels que soient les niveaux. On l'a vu sur la production, mais également sur l'accompagnement social, sur tout la place, le rôle majeur du bailleur sur le territoire.
Et justement, est-ce qu'on va peut-être rester sur ce côté inquiétude aussi dans l'actuel, sur le côté peut-être production de logements sociaux au niveau des villes, au niveau des élus? Quels sont les leviers, les marges de manœuvre de chacun? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a une prise de conscience vraiment prégnante là depuis la pandémie, ou au contraire, vous sentez qu'il y a un petit retrait, une petite inquiétude aussi des élus locaux vis-à-vis de cette production de logements sociaux? Votre avis sur la question?
L'inquiétude des élus est réelle et certaine, hein, qu'on le veuille ou non, les chiffres sont là. Hein, la production, ça a été dit également ce matin, la production et le nombre d'agréments est en diminution constante. Et nous, ce que l'on a ressenti, notamment, c'est ce qui a fait que la commission politique sociale s'est largement mobilisée autour des attributions, puisque derrière, on a pressenti l'idée que les élus, finalement, ne souhaitaient plus s'impliquer fortement dans le logement social, tout simplement parce que derrière, ils n'étaient plus en capacité d'agir sur les attributions. Et pour eux, la proximité, donc avec leurs administrés, passait entre autres par le système d'attribution. Donc ça a été un point fort. Et la commission a publié un petit guide hein, en direction des élus, mais pas que, également des bailleurs sociaux. Et un petit guide qui rappelait comment faire maintenant, comment mettre en place cette réforme des attributions, puisque au départ, rappelons-le, l'EPCI et donc la collectivité, l'intercommunalité, étaient mises vraiment en chef de file, étaient placées au niveau de chef de file de la mise en place de cette réforme des attributions. Mais petit à petit, ça devait être une mesure, disons, de simplification, de transparence, mais petit à petit, c'est avéré que c'était encore plus complexe.
Ça s'est complexifié avec le temps.
Voilà, donc les élus ne comprenant plus rien au système, eh bien, finalement, derrière, se désengager. Donc notre travail maintenant consiste, puisqu'il y a eu un petit report hein, de mise en place de certaines mesures, que ce soit la gestion en flux ou la cotation, donc notre travail consiste justement à outiller les élus, mais également les bailleurs sociaux, évidemment, pour se déplacer sur les territoires, et faire comprendre qu'il est possible d'intervenir, qu'il est possible d'agir sur ces attributions, mais que l'on va partager des définitions, qu'on va partager des objectifs et notamment partager la notion du bien vivre ensemble. Et derrière, automatiquement, la boucle sera bouclée. Les acteurs donc sont les élus avec la politique foncière. C'est quand même la base, le foncier, pour construire. Donc les élus se verront un petit peu plus incités à intervenir sur ces politiques foncières.
Donc vraiment beaucoup de pédagogie autour de ce côté collaboratif.
Voilà, de la pédagogie, on a retrouvé le même point au niveau, on l'a vu, des taxes foncières, tout ça, l'exonération des taxes foncières. Donc derrière, il faut accompagner et chaque fois répéter, mais également être force de proposition. Être force de proposition, quand vous parlez par exemple d'attribution, et bien arriver avec des outils, avec un mode opératoire, savoir comment faire. Vous êtes sur un territoire, vous êtes nouvel élu, voilà comment ça se passe, voilà comment je peux faire. Là, il faut mettre en place des conférences intercommunales du logement. Je n'ai pas que ça à faire, je ne sais pas faire. Ben voilà, vous commencez par A, B, C, D, on partage. Et les bailleurs sociaux, à travers leur mouvement également représentatif, au niveau régional, mais bien sûr au niveau national, donc, et puis les groupes derrière, se mobilisent justement pour fournir ces outils. Et ça peut être également des outils informatiques, des applications qui permettent justement soit de calculer des équilibres de peuplement ou d'accompagner des politiques sociales. On ne peut pas le cacher, les élus ont très peur et si on veut réussir justement la mise en place de cette réforme, il ne faut pas occulter le fait que les élus ont très peur. Ils n'entendent parler de mixité sociale que par le biais des attributions à des publics prioritaires. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. La mixité sociale ne relève pas, n'est pas la seule.
Uniquement, en tout cas, sur la ressource financière.
Tout à fait. Donc, on retrouve la ressource financière, mais on retrouve également la mixité intergénérationnelle. On retrouve les statuts. N'oublions pas, les salariés sont également des éléments de mixité dans un ensemble. Et c'est là tout le professionnalisme du bailleur social qui, finalement, sait manier avec précaution, mais justesse, ces indicateurs pour faire que le bien vivre ensemble existe. Donc, c'est bien pour ça qu'on parle de capacité d'accueil et d'équilibre de peuplement. Donc, optimiste, oui, je le suis. Pour l'avenir, il y a beaucoup de travail, mais c'est ce qui fait le charme aussi de nos métiers.
Et puis, il faut bien garder en tête une chose, il y a des chiffres, mais il y a des êtres aussi, surtout derrière, c'est le concret, c'est le quotidien des gens. On est vraiment sur l'économie de l'usage aussi, sur rentrer dans les foyers de chacun. Comment réussir à allier justement cet équilibre entre les chiffres, entre ce côté techno, ce côté très précis, ce côté très chiffré, et puis en même temps ce côté très concret, très dans la vie des gens?
Bien, ça peut rapidement faire partie de ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, si on y prend garde, tout simplement parce que derrière les objectifs qui nous sont fixés et assignés sont des objectifs quantitatifs et derrière nous avons des objectifs qualitatifs, c'est-à-dire en traitant de l'être humain, donc de la famille qui, je le rappelle, par exemple sur le volet des demandeurs de logement social, quand on vous dit bon là on fait à tel endroit cette famille peut aller, non, nul n'est propriétaire de la demande, sauf le demandeur. Donc ça, on le sait, chacun vient. Et c'est également, je n'ai de cesse de le répéter, là aussi, c'est également leur montrer beaucoup de respect que de les laisser acteurs de leur demande. Mais par contre, là aussi, les accompagner, faire ce petit travail de dentelle qui permet à chacun de finalement bien vivre dans le logement qui va lui être proposé. Et là où on a vu également ce point, c'est à travers la crise sanitaire. Donc nous avions la conception des logements, tous les mètres carrés, le loyer, mètres carrés, tout ça. C'est avéré que pour certains, le logement avait d'autres usages que ça, et puis donc devait revêtir d'autres qualités que nous n'avions pas. Donc là aussi, la crise sanitaire va nous amener
à faire évoluer en tout cas.
Oui, le produit. Donc toujours, toujours s'adapter à la demande et au produit, c'est notre métier.
J'aimerais revenir sur cette expression, je la trouve hyper intéressante. Nul n'est propriétaire de la demande à part le demandeur. C'est ultra important qu'il se sente finalement impliqué dans ce projet, que ça soit sa décision à lui, son choix à lui.
C'est son choix et justement à titre expérimental, donc, mais c'est prévu par les textes, à titre expérimental, on met en place la location voulue, c'est-à-dire que le demandeur va pouvoir se positionner lui-même sur des logements, sur une offre qui lui sera accessible. Ça ne veut pas dire qu'il sera automatiquement attributaire hein, de ce logement, puisqu'après, nous avons bien une commission d'attribution. Mais c'est le rendre acteur. Donc, et là, il va rentrer sur un logement. Si c'est, ça, la suite est favorable, il rentre sur un logement qu'il aura choisi. Et derrière, ça veut dire aussi que le vivre ensemble, donc la sérénité et l'accompagnement au sein de ce logement, donc, seront beaucoup plus faciles à faire. Et la qualité de vie pour tout un chacun.
Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie Sprat, d'avoir été notre invitée dans les allées du congrès de l'USH sur Radio Imo et Radio Territoria. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler sur Radio Imo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Moi, je vous dis à très bientôt, suite des interviews forcément sur Radio Imo et Radio Territoria en direct. À très vite sur nos stations.
Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.